Bienvenue à tous, bonsoir. Et donc le cours de ce soir va porter sur... on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ne plus voir seulement que quelques composants isolés, mais on va voir des ensembles, qu'on appelle donc des étages, donc on va voir une première partie là, des amplificateurs radiofréquences, des amplis RF, et donc on verra la semaine prochaine les autres étages radiofréquences comme les mélangeurs, les oscillateurs, les multiplicateurs, etc. etc. Et donc là ce soir on voit il y a un chapitre entièrement consacré aux amplificateurs, parce que c'est quand même des amplificateurs un peu particuliers, ces amplificateurs radiofréquences. C'est pas un amplificateur bête et méchant. Donc il y a quelques spécificités qu'on va voir tout de suite. Alors premièrement, on va parler, et ça c'est en règle générale, c'est valable pour tout, que ce soit des amplis audio ou des amplis radio, c'est valable pour tout. On va parler des classes d'amplification. Alors attention, ne pas confondre le montage du transistor qu'on a vu la semaine dernière. Hein, je rappelle, les montages de transistors, c'est par exemple émetteur commun, base commune, collecteur commun. Ça, c'est les montages du transistor. Donc c'est, en clair, l'électrode sur laquelle on n'applique pas le signal de sortie ou où on ne récupère pas le signal... on n'applique pas le signal d'entrée et on ne récupère pas le signal de sortie. Hein, donc c'est l'électrode qui est à un niveau de potentiel toujours le même, stabilisé. Donc ça, c'est le montage du transistor qu'on a donc vu la semaine dernière. Et là, on va parler des classes d'amplification, c'est-à-dire comment le signal à amplifier va être... va être amplifié, voilà. Et donc, ces classes d'amplification, il y en a trois principales, tout au moins en analogique, on verra qu'en numérique, on a une classe qui s'appelle la classe D, qui est un peu particulière, mais on va l'évoquer, pas de question à l'examen, mais on va quand même l'évoquer. Et donc, la classe d'amplification, elle va se définir par rapport à la tension de repos, c'est-à-dire la tension que l'on applique à l'entrée du circuit en absence du signal, ou tout au moins avec un très faible signal. Exemple ici, donc on a un signal à amplifier qui est là, et donc la tension de repos ici, c'est sa tension moyenne. Je vais virer ça, qui me gêne. Donc ça, c'est sa tension moyenne à mon signal à amplifier, et c'est ce que l'on appelle donc la tension de repos, et c'est cette tension de repos par rapport à l'entrée, ce que l'on met à l'entrée du transistor, donc sur la base du transistor quand on est en émetteur commun, c'est ce qui va déterminer la classe d'amplification. Hein? Donc ici, en vert, c'est toute la plage d'amplification de mon amplificateur, c'est-à-dire que mon amplificateur va être linéaire, on va voir ce que ça veut dire linéaire après, il va être linéaire sur cette portion-là, au-delà et en dessous, il risque de ne pas être linéaire, donc on va essayer de ne pas y aller, parce que si on y va, on va avoir quelques petits ennuis. Voilà. Donc là, ma tension de repos, eh bien, elle va être soit ici au milieu, ou alors légèrement décalée. Et c'est donc cette tension de repos par rapport à la plage d'amplification qui va être utilisée. On va voir concrètement, et donc ce qu'on fait bouger là, c'est cette tension de repos qu'on fait monter ou descendre. Généralement d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est plutôt descendre que monter. Enfin bon, voilà, on peut la faire varier dans les deux sens. Et donc, c'est ce niveau de tension de repos qui va déterminer la plage de fonctionnement et qui donc définit la classe d'amplification. Concrètement, la classe A, eh bien, c'est avec un seul transistor. Donc là, un transistor monté, vous le reconnaissez ici en émetteur commun, puisque mon émetteur est à la masse. L'entrée, elle est sur ma base, et la sortie, ici, est sur mon collecteur. Hein? Donc, on reconnaît cette classe d'amplification, enfin, tout bas, ce montage de transistors. D'ailleurs, tous les montages de transistors que je vais faire, la plupart du temps, sont montés en émetteur commun, puisque c'est le truc le plus classique. Mais on peut, évidemment, mixer les classes d'amplification avec le montage du transistor. Donc, ça fait quand même pas mal de possibilités. Voilà. Donc, par exemple, pour ma classe A, voilà, l'entrée est ici, ma sortie là. OK ? Donc, mon signal à amplifier en classe A, il va être finalement au milieu de mon amplification, de ma plage de fonctionnement du transistor, où il est linéaire. Donc je vais être ici quelque chose qui est légèrement positif. Concrètement, ici, sur ici la tension sur la base, j'ai grosso modo 1,5 V. Quoi. On va dire, pour simplifier, si j'ai ici un signal ici qui fait 1 volt de crête à crête, là, pour faire simple, et bien ici, je dois être au moins à 0,7 volt, parce que sinon, je vais être, enfin, le transistor va être bloqué. Bloqué, c'est-à-dire que ma diode ne va pas passer, puisqu'elle est inférieure à 0,7. Et comme elle est inférieure à 0,7, et bien, pas de courant dans la diode, et donc pas de courant dans le collecteur. Enfin, la diode, la jonction ici qu'on a entre base et émetteur. D'accord ? Donc, ici, si j'ai un signal crête à crête de 1 volt, eh bien ici, mon signal, enfin ma tension sur la base, eh bien elle va être grosso modo de 0,7 plus la moitié ici de ma tension crête à crête, donc 0,5, donc j'ai 1,2 volt. Alors pour ne pas être coincé, je vais mettre 1,5 voire 2 volts sur la base, là. Et comment j'obtiens cette valeur ? Ben, tout simplement ici avec un pont de résistance. Ce pont de résistance, on sait parfaitement faire en sorte que, en prenant les résistances qui vont bien, on sait parfaitement faire en sorte que la tension ici au milieu soit de, donc là par exemple, 2 volts. Si ici j'alimente en 12 volts, ben ici je mets 10 kΩ, ici 2 kΩ, et ma répartition, comme on avait vu avec les résistances, la répartition de la tension, ben va se faire automatiquement, et ici je vais bien avoir mes 2 volts. Alors il faut juste faire attention à ce que j'ai une partie de l'intensité là qui arrive de cette résistance là, qui va partir ici dans ma jonction, et qui ne partira pas ici dans cette résistance. Donc cette histoire-là de prorata des résistances, elle est un tout petit peu biaisée par le fait que j'ai une partie de l'intensité qui va dériver ici dans la base. Mais ça se calcule. Hein, ça se calcule. Et puis si ça se calcule pas, bah ça se. Voilà, au pif, ça doit y aller. On devrait y arriver. Enfin, en tout cas, voilà la manière dont ça fonctionne. Donc, le principe de la classe A, c'est que la tension de repos, elle est au milieu de la plage de fonctionnement du transistor. Alors, concrètement, on va peut-être pas la mettre au milieu pile poil si le signal a une très faible puissance. Pourquoi ? C'est que, automatiquement, plus je mets ici une tension importante, plus ça va consommer, et donc plus le rapport entre la puissance que l'on a amplifiée et la puissance consommée par le circuit va être importante. Donc plus le rendement va être mauvais. Donc souvent, on va essayer d'optimiser quand même le rendement, sauf si on a très peu de puissance, hein, évidemment. Mais si on a un petit peu de puissance, on va essayer d'optimiser le rendement en essayant de le descendre le plus bas possible pour éviter trop d'intensité, puisque après cette intensité, on ne va pas savoir quoi en faire, et en tout cas, on ne va pas la récupérer si on sortit, puisque ici, je ne récupère qu'un signal alternatif, et l'intensité de courant continu, donc l'intensité de repos, du courant de repos, elle, eh ben elle passe par la résistance de charge et par le collecteur, etc. Donc tout ça, ça se part en chaleur. Alors, en mettant un condensateur, ça empêcherait cette dérivation du courant continu dans la base. Alors, oui et non. Oui et non. On verra tout à l'heure, on va voir ça dans une présentation avec un logiciel de simulation de circuit électronique. Donc c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux. L'avantage de ce signal-là, de cette classe d'amplification, c'est qu'on sait que le transistor, il amplifie linéairement, c'est-à-dire que le bêta du transistor, donc sa capacité à... le rapport entre le courant collecteur et le courant de base, c'est quelque chose qui est très constant, quelle que soit la tension d'alimentation ici du transistor. Évidemment, il ne faut pas non plus aller dans les excès, hein, mais on a une plage assez large dans lequel le transistor réagit de manière linéaire. C'est-à-dire que c'est vraiment le même multiplicateur, quelle que soit l'intensité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ou qu'on dit que ce montage est très linéaire, et comme il est relativement simple, et ben, parce qu'il ne nécessite pas beaucoup de composants, et ben, du coup, il est assez courant. Alors, il est assez courant lorsqu'on n'a pas besoin de puissance. Parce que dès qu'on va vouloir de la puissance, ben, on ne va pas utiliser ce montage-là. Le rendement, il est assez faible. En théorie, il est au maximum de 50%. Pourquoi ? Parce que si vous mettez votre tension de repos ici à la moitié, eh bien, vous allez perdre la moitié, finalement, de la puissance en chaleur. Puisque, encore une fois, cette partie-là, le courant de repos, lui, il va passer dans la résistance de charge, dans le transistor, mais en tout cas, on ne va pas le retrouver ici en sortie. Donc, en théorie, on a un rendement de 50%. En pratique, quand on arrive à 30%, on est très content. Et, en pratique, la plupart du temps, on a très peu de puissance. Par exemple, quand on est en réception, on n'a quasiment aucune puissance, tout au moins au départ. Et évidemment, ce 30%, il diminue très rapidement. Et à la fin, si on a 1%, on est encore une fois très content parce que tout dépend de la puissance qui arrive de l'antenne, en fait. On va voir tout à l'heure. Pourquoi ? Mais ce montage, et ça c'est lié uniquement au fait qu'on est ici dans un montage en émetteur commun, la résistance de charge ici va faire en sorte que le courant en sortie est déphasé de 180 degrés par rapport au courant d'entrée. Alors vous me direz, 180 degrés c'est une catastrophe, machin, pas du tout. C'est juste que le courant, enfin tout courant en termes d'intensité et de tension, est juste inversé. Donc c'est pas lié à la classe d'amplification, c'est lié au montage. D'ailleurs, ici je vous ai mis le même montage en classe A, mais en collecteur commun, puisque ici, le collecteur, il est monté aussi au plus, avant, la tension elle ne varie pas, et je recueille ma sortie sur l'émetteur. Et cette résistance de charge, là, du coup, elle est sur l'émetteur. Et dans ce cas-là, le montage ne donne pas d'inversion, ne donne pas de déphasage. Hein? Donc, le déphasage, c'est uniquement dû au montage du transistor en émetteur commun. Mais en tout cas, pas à la classe d'amplification. Donc ça, c'est la classe A, la plus connue, la plus répandue, et en règle générale, celle où il y a des questions à l'examen. Voilà. Donc ça, c'est la plus simple, et on va voir tout à l'heure la manip qu'on va faire à la fin du cours, ça va être sur un montage en classe A et émetteur commun. Donc voilà. Alors vous avez ici cette fameuse résistance de charge, on va en parler un peu plus loin tout à l'heure, quand on va justement voir ce que c'est que cette résistance de charge et à quoi elle sert. Parce qu'en fait, c'est cette résistance-là qui permet de récupérer le signal en sortie. Si on n'avait pas cette résistance-là, eh bien, on met ici le collecteur au plus, et puis on récupère rien du tout, quoi. Donc, il faut mettre un autre système. Mais en tout cas, c'est cette résistance-là qui va nous permettre de récupérer le signal de sortie que l'on récupère derrière un condensateur, là, parce que sinon, on va avoir des variations qui ne sont pas celles qui nous intéressent, et donc en signal de sortie, on a vraiment un signal alternatif, et comme on est après un condensateur, on a perdu toute trace de composante continue. Hein? Et d'ailleurs, on peut mettre aussi un condensateur ici à l'entrée, avant le signal, avant l'entrée ici. On va voir tout à l'heure dans le montage qu'il y a un condensateur à l'entrée, un condensateur à la sortie, on va voir à quoi ça sert. Le montage en classe B, donc c'est la deuxième classe d'amplification très utilisée aussi, mais utilisée essentiellement pour les amplificateurs de puissance. Pourquoi ? C'est qu'en fait, alors premièrement, un amplificateur en classe B, ça nécessite deux transistors qui amplifient chacun une alternance. Donc, ma tension de repos, alors, on amplifie la tension, pas l'intensité. Ah bah si, on amplifie les deux. Hein. Alors, je rappelle quand même, le transistor, il amplifie de manière linéaire l'intensité, c'est le bêta du transistor, mais on récupère des tensions grâce aux résistances. Hein. Et puis après, donc, il y a tous les problèmes liés aux impédances. Donc, impédance, c'est rapport tension-intensité. Alors, on cherche à amplifier la tension, pas l'intensité. Faux. Je peux vouloir chercher à amplifier la tension et l'intensité. Encore une fois, tout dépend de l'impédance que je veux à la fin. Si je veux une très basse impédance, eh ben, ce qu'il faut que j'amplifie, c'est peut-être que l'intensité. Et faut reprendre ce que l'on a vu la semaine dernière sur les différents montages. Puisque les différents montages vont donner mes impédances d'entrée et de sortie. Hein? Donc typiquement, un montage en classe A, c'est une entrée moyenne et une sortie avec une impédance élevée. D'accord ? Donc on va voir ce que c'est, ce que veut dire ces notions d'impédance, hein, mais... n'oublions pas qu'un transistor, c'est construit pour amplifier linéairement une intensité, mais il suffit de rajouter des résistances, et du coup, on transforme l'intensité en tension. Hein. Et donc après, il faut évidemment bien choisir les résistances pour que ça fonctionne. Mais encore une fois, on cherche à amplifier tension et intensité, et de manière en cherchant au mieux au niveau de l'impédance de ce que l'on veut, donc le rapport tension divisé par intensité. Je continue, on reviendra sur cette problématique. Donc la classe B, donc j'amplifie une alternance par un transistor et la deuxième alternance par un deuxième transistor. Ce qui veut dire que ma tension de repos ici, bah, elle est à 0, alors, à 0 volt. Je fais en sorte que le 0 volt, donc la tension moyenne de mon signal à amplifier, corresponde au démarrage finalement, donc au 0,7 volt de mes transistors. Et donc c'est là où ça se complique un petit peu, c'est-à-dire que ici je vous ai montré un schéma. C'est un schéma très théorique, mais en pratique, il va falloir rajouter des résistances pour faire en sorte que lorsque l'alternance change de sens, hein, ici j'ai une alternance positive, ici une alternance négative, donc à partir du moment où l'alternance change de sens, donc tout au départ, je n'ai pas les 0,7 volts, et donc tout au départ, ici, avec un système comme ça, bête et con comme ça, je vais avoir un problème, c'est que mon transistor, il va rester bloqué. Et il faudra attendre que j'ai 0,7 volts pour qu'il commence à amplifier. Inversement, ici, de l'autre côté, même chose. Il faudrait que je sois ici à moins 0,7 volts, finalement, puisqu'il est en haut de sens. Et donc ici, entre les deux transistors, je vais avoir un blanc, entre guillemets, de 1,4 volts. Si je fais un montage comme ça, bien évidemment. Et donc on voit bien que c'est absolument pas... ça va poser des tas de problèmes. Typiquement, et ça je vous ai mis ici, alors ça c'est le problème du recouvrement. Ça c'est un recouvrement dans l'autre sens, c'est-à-dire que il y en a un qui démarre trop vite par rapport à l'autre. Hein, pour expliquer ici le schéma. Alors, plus. Alors, tech et tech et tech. Je redescends pour que... Ah merde, j'étais un peu loin. Voilà. Donc là, ça c'est la distorsion de ce qu'on appelle la distorsion de croisement. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, mes deux transistors ils sont bloqués. Et donc, bah, j'ai une partie de mon signal ici qui n'est pas amplifiée. Et donc, en sortie, je vais avoir cette forme-là qui ne correspond pas du tout à la forme que j'ai au départ. Et donc, ça va me poser des problèmes. Parce que du coup, ça va me générer des distorsions, puisque mon signal ne sera plus strictement identique à la sortie par rapport à ce qu'il y avait à l'entrée. Hein? Donc ça, c'est mes deux transistors, et là, j'ai un problème ici, c'est ce qu'on appelle une distorsion de croisement. Et donc, à cet endroit-là, c'est que mes deux transistors sont bloqués, donc il faut faire un système avec des résistances, et en plus des résistances ajustables, pour que mes deux transistors prennent le relais l'un l'autre à un moment très précis. En plus, le problème, c'est que mes deux transistors, là, doivent amplifier strictement de la même manière. C'est-à-dire que si, ici, j'ai un bêta de 50 et ici un bêta de 70, vous êtes certain que la forme ici du signal sera plus aplatie que celle d'en bas. Ça, c'est certain. Et donc, encore une fois, ça voudra dire que votre signal n'est pas linéaire, mais qu'il a eu une distorsion. Donc, il faut absolument que vos deux transistors aient les mêmes caractéristiques. Et c'est d'ailleurs... Alors, là, en l'occurrence, ce sont deux mêmes transistors, comme vous voyez. Hein, ce sont des NPN, les deux. Et les commerçants ne sont pas trop cons. Et ils vous vendent des transistors dits apérés, c'est-à-dire que ils ont vérifié qu'ils ont bien les mêmes caractéristiques tous les deux. Autre solution, mais ça on le voit pas, on va pas le voir ce soir parce que voilà, il y a des tas de possibilités, c'est d'utiliser des transistors NPN-PNP, mais encore une fois appairés. Alors évidemment le schéma est légèrement différent, mais vous allez utiliser du coup deux transistors qu'on va dire complémentaires, mais encore une fois qui ont des caractéristiques équivalentes. C'est là que ça se complique un petit peu, c'est-à-dire que c'est un NPN et un PNP. D'ailleurs, les références, elles sont très proches l'une de l'autre. La plupart du temps, c'est juste un chiffre qui diffère. Et donc, ces transistors-là, eh bien, voilà, ils font, ils coûtent un peu plus cher. Et encore une fois, alors c'est pas exactement ce même montage-là, mais ça revient à peu près au même. Voilà, donc ça c'est la classe B. Donc vous allez utiliser de ce fait deux transistors. Ici, pour le cas où vous avez deux transistors identiques, vous allez mettre un transformateur à point milieu. Hein, pour les transistors NPN-PNP appairés, il n'y a pas besoin de transfo. Hein, ça va marcher avec des résistances qui prennent le relais l'une par rapport à l'autre. Mais ce schéma-là est plus compréhensible que pour le NPN-PNP. Voilà, donc ça c'est l'entrée avec un point milieu, donc première alternance ici le transistor T1, et deuxième alternance c'est le transistor T2. En sortie, eh bien je passe ici, encore une fois, par un transfo, où je mets le plus de l'alimentation. Donc selon que je vais passer par l'alternance positive ou négative, bah ça va alimenter la partie supérieure ou la partie inférieure ici de mon transfo, et que je vais récupérer ici sur mon secondaire. L'avantage de ce système-là, c'est que ici, vous maîtrisez le rendement, beaucoup plus, le rendement, l'impédance, et donc, quelque part, le rendement. Hein, vous maîtrisez, comme ici, vous avez des transfos, comme vous connaissez bien toutes les formules de vos transfos pour transformer les impédances, puisqu'on les a vues un peu avant. C'est ça l'intérêt un petit peu de ces cours, c'est que du coup, maintenant, on comprend mieux tout ce que l'on a vu avant, ce à quoi sert tout ce qu'on a vu avant, c'est que maintenant, on rentre vraiment dans le détail de ces circuits-là. Voilà. Et même chose en sortie, ici, on va pouvoir adapter l'impédance en fonction de ce que l'on veut réellement en sortie, parce qu'évidemment, cette sortie-là, c'est en fait, c'est l'entrée qui est ici, en fait. Hein. Donc vous pouvez avoir un deuxième amplificateur sans problème. Donc, ma tension de repos, elle est à la limite de la plage de fonctionnement, à la limite inférieure de la plage de fonctionnement. Problème de cet amplificateur, on l'a déjà évoqué, c'est que c'est assez difficile à régler, mais une fois que c'est réglé, voilà, ça ne bouge plus trop. C'est encombrant, pourquoi ? Parce qu'il y a des transfos. En plus, mais ça c'est automatiquement, quand on parle d'amplificateur de puissance, il va falloir dissiper la chaleur qu'il y a dans les transistors. Donc en règle générale, on va mettre des radiateurs, donc ça tient un peu de place. Voilà, ça c'est toujours le. Mais ça c'est dès qu'on commence à être un petit peu dans la chaleur. Le rendement, là, on a un rendement qui est meilleur. Voilà. Alors 50% théorique, là, on arrive. Alors le 78.6, ça se démontre. Je l'ai vu une fois, la démonstration, c'est assez compliqué, c'est avec des histoires de sinus dans tous les sens. Mais voilà, le rendement moyen, c'est 78,6% en théorie. Hein, c'est un calcul assez sioux, dont on passe dessus. Dans la pratique, quand on arrive à 50% de rendement, c'est pas mal. C'est-à-dire que pour un ampli de 100 watts en sortie, il va consommer 200 watts. Au minimum. Sans parler de tous les circuits qu'il peut y avoir autour, et peut-être de tout ce qui est préampli auparavant. Voilà. Donc, ce type ici d'amplificateur, ça, quand c'est mal réglé, ça peut générer des harmoniques. Et ce sont des harmoniques dites impaires. On va voir un peu après, quand on va parler des distorsions, ce que sont des distorsions paires et des distorsions impaires. En règle générale, la classe A, ça va plutôt générer des distorsions avec des harmoniques paires, 2, 4, 6, etc. Alors que les amplificateurs en classe B vont plutôt générer des distorsions avec des harmoniques impaires, donc 3, 5, etc. etc. Et donc ça nécessite, on l'a dit, soit deux transistors appairés. Appairés, ça veut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques tous les deux. Donc souvent les mêmes déjà la même référence. Et une fois qu'on a ça, le constructeur fait en sorte de mettre ensemble deux transistors qui ont strictement les mêmes caractéristiques, au moins les caractéristiques les plus approchantes possibles. Et en fait, c'est lui qui fait le tri. Et donc, pour ça, il faut le payer. Et c'est pour ça que les transistors appairés, ils sont vendus ensemble, hein. C'est normal, et ils sont vendus deux fois plus cher, enfin, plus que deux fois plus cher qu'un transistor unitaire, puisqu'il y a eu toute la partie tri, je dirais, par le constructeur. Donc ça, c'est la classe B. Et voilà, la classe C. La classe C, elle n'est utilisée que en radio. C'est quelque chose qui est absolument pas utilisé ailleurs. Pourquoi ? C'est qu'en fait, ce que je vais faire, là, je vais vraiment prendre la tension de repos, elle est en dessous de la plage de fonctionnement. Donc, ma tension de repos, elle est là. Elle est en dessous de la plage de fonctionnement, et si bien que n'est amplifié ici qu'une toute petite partie ici de mon signal. D'accord ? Et cette toute petite partie ici de mon signal, alors vous me direz, à quoi ça sert, DEC, du coup ? Eh bien, en fait, le reste du signal, là, est reconstitué par un circuit oscillant à la sortie du circuit. Et évidemment, il faut que ce circuit oscillant soit de la bonne fréquence. Parce que, évidemment, si vous l'accordez pas à la fréquence d'entrée, vous êtes certain que ça va merder votre truc. Donc il faut faire en sorte de mettre cette tension de repos bien en dessous. Et comment je fais ? Eh bien, avec ici une résistance de polarisation, pour ça que j'appelle ça RP, qui est ici à une tension, alors plus ou moins négative, ou tout au moins à la masse, et ici un condensateur qui va aussi mettre une partie de l'énergie ici à la masse. Si bien que il n'y aura que les pointes de votre signal qui vont ici être amplifiées par le transistor. Tout ce qui est en dessous des 0,7, poubelle, ça ne sera pas amplifié. Et ici, il n'y a que les crêtes, ici, les petites crêtes ici en rouge, qui vont passer, qui vont être amplifiées dans mon transistor, et qui vont ici alimenter mon circuit oscillant, qui va finalement osciller, et je récupère mon signal en sortie sur un point milieu du circuit oscillant, par exemple, ou directement ici à la sortie, directement sur le collecteur à travers un condensateur, puisque ici je vais avoir une tension qui va osciller à la vitesse de la fréquence d'oscillation de mon circuit oscillant, qui va être la même fréquence que mon signal d'entrée. Voilà. Donc c'est un montage qui est utile, déjà qui est peu courant, essentiellement en radio, mais même en radio pure, il est quand même assez peu courant. On va le voir essentiellement en morse et en FM dans les montages super simples, on va dire. Dès qu'on complique, on va oublier cette classe C qui pose pas mal de problèmes. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a un rendement de 80% et plus. Pourquoi ? C'est qu'en fait, mon transistor, il fonctionne que sur les pointes. Après, il s'arrête. Et tout le reste est reconstitué ici par ce circuit MC qui est réalimenté régulièrement. À chaque pic ici, ça réalimente ici mon circuit aussi. Et ça me génère donc ma belle sinusoïde. Problème, quand même, c'est que du coup, si j'ai ici une amplitude variable, eh bien, je me suis coincé parce que si elle est variable, elle risque de passer en dessous de ma plage de fonctionnement. Et du coup, mon circuit oscillant, il sait pas faire derrière. Il sait pas reconstituer quelque chose qu'il voit pas. Voilà. Donc, ce système-là, ça marche relativement bien. Mais uniquement si vous n'avez pas un signal modulé en amplitude. Problème quand même, c'est que ce type d'amplificateur génère beaucoup d'harmoniques. En particulier si le circuit oscillant ici n'est pas pile poil à la fréquence de mon signal d'entrée. Là, je vais avoir des harmoniques dans tous les sens. Et des harmoniques paires et impaires, les deux. Voilà. Et donc, encore une fois, là, mon transistor, il reste bloqué, et donc il ne fonctionne pas tant que la tension n'atteint pas au moins la tension B qui est ici en pointillé. Hein, c'est la tension de blocage. Voilà. Donc ça, ce sont les trois classes principales, donc A, B et C. Alors, je parle un petit peu, on va commencer par la classe D, après on va voir les autres. La classe D, alors, c'est une classe qui est assez récente, c'est une classe qui est essentiellement liée au numérique. Donc, par exemple, tout ce qui est SDR va fonctionner, émetteur SDR va fonctionner avec ce système-là. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec des ampli-op. Donc on n'a pas encore vu les ampli-op, on les verra un peu plus tard. Mais on le reverra au moment où on fera les ampli-op. Mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. En fait, c'est une. J'ai à la fois. Donc sur un ampli-op, j'ai mon signal d'entrée qui est sur une des broches de mon ampli-op et sur la deuxième broche de mon ampli-op, j'ai un signal ici triangle. L'ampli-op, c'est compliqué ça, l'ampli-op va laisser passer la tension ici qu'il alimente, donc en sortie, lorsque la tension de l'horloge va être supérieure à la tension d'entrée. Dans ce cas-là, il laisse passer la tension et donc c'est cette tension-là que je vais avoir en sortie. Sinon, c'est bloqué. Ce qui veut dire que quand je regarde ça de cette manière-là, ici, je vais avoir ce qu'on appelle des impulsions à largeur variable. C'est-à-dire que ici, je vais avoir des signaux. Impulsion, alors à impulsion à la vitesse ici de mon horloge et de largeur variable, c'est-à-dire que lorsqu'ici je suis sur le haut ici de ma courbe, ici j'ai très peu, ici ça va fonctionner très peu de temps, et quand je suis vers le bas de la courbe, ici ça, je vais avoir des créneaux qui vont être de plus en plus larges. Si bien qu'à la sortie de ce type d'amplificateur, je vais mettre un filtre passe-bas, très méchant, et si bien que je vais retrouver ici mon signal d'entrée. Donc ce système-là, on se dit comment ça peut marcher, et en fait, il faut savoir que la plupart des amplificateurs audio de vos téléphones portables, c'est comme ça que ça marche. Et ils ne mettent même pas de filtre passe-bas à la suite. Le filtre passe-bas, c'est quoi? C'est les oreillettes et votre cerveau. Et vos oreilles. Mais problème, c'est que du coup, c'est le cerveau souvent qui fait le boulot, mais c'est vos oreilles qui trinquent. Parce qu'elles se prennent des fréquences très 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 élevées que vous n'entendez pas évidemment, mais ça a tendance un petit peu à dégrader votre audition. Voilà. Donc c'est un petit peu gênant. Donc on reviendra sur cette classe D quand on verra les ampli-op. Mais alors en anglais, donc c'est PWM, donc modulation pulse width modulation, donc modulation à largeur d'impulsion, qui a été traduit en français par impulsion à largeur variable. Voilà, donc c'est du PWM ou de la classe D. C'est essentiellement utilisé en BF, assez peu en HF, parce que le problème de la HF, c'est que derrière, faut filtrer. Parce que ça, c'est du signal carré, et c'est une saloperie à filtrer. Et donc, vous êtes certain de vous balader avec des harmoniques pair-impair dans tous les sens, au-delà de la fréquence d'émission. Et notamment autour de la fréquence ici d'échantillonnage. Donc voilà, c'est quand même assez problématique. Donc on a vu les quatre grandes familles de classes d'amplification, donc ABCD, mais en tout il doit y avoir une vingtaine de classes d'amplification qui sont toutes qui se rapportent toutes finalement à ces trois classes. Par exemple, on a la classe AB1 et la classe AB2. Alors, la classe AB1, vous voyez, on a essayé de faire en sorte d'améliorer la classe A en diminuant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en se rapprochant de la tension de blocage, pour essayer de gagner en rendement. Et donc là, la classe AB1, elle s'arrête juste ici au 0 volt. Et la classe AB2, elle va légèrement en dessous, ce qui veut dire concrètement que cette partie du signal en dessous, là, elle est écrêtée et qu'elle donc elle ne sera pas amplifiée. Mais finalement, en mettant un filtre passe-bas à la suite de cet amplificateur, ça peut encore le faire. C'est-à-dire que ça génère pas trop d'harmoniques et le signal n'est pas trop dégradé. Voilà, donc AB1, on est juste à la limite, et AB2, on est légèrement en dessous. Alors, problème, c'est que le AB1, on peut du coup moduler en amplitude. Pour AB2, il ne faut surtout pas moduler en amplitude, puisque si on module en amplitude, l'amplificateur ne va pas, enfin, tout au moins le système derrière, ne va pas savoir si on est arrêté parce que c'est l'amplitude qui est arrêtée, ou si ça continue et que c'est le système qui l'a coupé. Donc on ne sait pas trop, le système ne sait plus trop où il est. Et donc, ça pose quand même la classe AB2 vaut mieux l'utiliser en FM ou en morse, mais en AM à éviter, parce qu'on risque d'avoir plus de problèmes que de gains par le rendement, en fait. C'est ça le problème. Et encore une fois, la classe AB1, on va utiliser en sortie un filtre pour au cas où on ait raté le zéro là et que notre transistor n'est pas complètement linéaire dans le bas de la plage d'amplification. On en arrive à notre résistance de charge qu'on a évoquée quand on a vu la classe A, puisqu'en fait on la voit que dans le cadre de la classe A, cette résistance de charge. Qu'est-ce que c'est que à quoi elle sert cette résistance de charge? En fait, elle va me servir essentiellement à récupérer l'impédance qui m'intéresse, et donc à transformer une partie de l'intensité en tension. Je m'explique. Ici, j'ai donc un signal qui a une certaine tension, une certaine intensité, qui arrive ici. À travers mon condensateur, là, je récupère ici une tension et une intensité. Moi, mon transistor, il ne fonctionne que par le biais de cette intensité de base, et l'intensité de base, elle est directement fonction ici de la tension base-émetteur. Ah, c'est ça, c'est cette tension base-émetteur qui me génère ici une intensité. Et cette tension base-émetteur, c'est finalement quelque part la tension que je récupère ici, aux bandes de ma résistance R2, hein, quand je regarde mon système, là, c'est la tension que j'ai entre ma base et mon émetteur, et qui est aussi entre aux bandes de ma résistance R2 ici. D'accord ? Donc cette tension-là va me générer une intensité. Cette intensité, c'est donc ici la jonction base-émetteur dans mon transistor. Lorsque je le visualise ici sur ce qu'on appelle ici un cadran, ça s'appelle un cadran, voilà, il n'y en a pas quatre, mais il y en a que trois. Donc ici, on voit tout comment fonctionne le transistor. Ces courbes-là, on les retrouve notamment dans les datasheets des transistors. Donc vous avez des courbes un peu comme ça, qui repose. Alors, elle est peut-être un peu trop elle est très théorique, ma courbe. Enfin bon, ça va représenter à peu près ça. Ici, vous avez la tension. Ici, en fait, il y a plusieurs éléments. Ici, vous avez la tension base-émetteur, et ici, l'intensité de base. Okay. Donc ça, c'est, vous allez retrouver la forme de la courbe d'une diode. Alors évidemment, elle est à l'envers là, donc il faut tout retourner. Vous retrouvez ici les 0,7 volts, et ici l'intensité qui augmente au fur et à mesure que ma tension augmente sur ma base. Hein? Donc ça, c'est le premier cadran, ça c'est la diode base-émetteur, et donc l'intensité de cette de base qui va être fonction de la tension entre émetteur et base. D'accord ? Évidemment, ici on retrouve les 0,7 volts, et lorsque l'on est avant 0,7 volts, on dit que le transistor est bloqué. Pourquoi ? C'est que ma diode, elle n'est pas passante, il faut 0,7 volts, et que du coup, eh bien, si je n'ai pas les 0,7 volts, eh bien, je n'ai pas d'intensité dans mon transistor. Donc, tout au moins, pas d'intensité dans la base. D'accord ? Et dès que au-delà des 0,7, eh bien, ça commence à décoller. On va dire, pour mon transistor, là, celui que j'ai utilisé, que j'ai 1 volt, et que ce 1 volt me donne 30 microampères. Ah, c'est le constructeur qui me dit ça. Si tu mets 1 volt sur ta base, eh bien, tu obtiendras 30 microampères dans ton, dans ta jonction base-émetteur. Donc, à l'intérieur de la base, il va passer 30 microampères. Soit. Deuxième cadran, ici, c'est le transfert entre l'intensité de base et l'intensité collecteur. On sait, on l'avait vu la semaine dernière, que l'intensité collecteur est directement fonction de l'intensité de base. C'est une fonction linéaire. Et donc, c'est linéaire, c'est un bêta de 100, par exemple. Bêta de 100, donc, j'ai quelque chose de très linéaire ici, le plus linéaire possible. Mais au bout d'un moment, mon transistor, il a un petit peu mal à sortir de l'intensité, et donc j'ai beau augmenter ma tension de base, eh bien mon intensité collecteur, elle va être limitée. C'est ce qu'on appelle la saturation. D'accord ? Donc j'en arrive ici à ma saturation, c'est ma courbe ici qui commence à partir un peu de côté. Et donc, mon transistor est linéaire entre cette tension de blocage ici, alors il faut que je sois un tout petit peu au-dessus quand même, parce que sinon, si je suis dans la courbe, là, ça va pas aller. Donc, il faut que je sois un peu au-dessus de la tension de blocage, mais sans arriver ici à la tension de saturation. Donc, il faut que je fasse attention à ce que le transistor ne soit ni bloqué ni saturé. Et puis, dernier cadran, c'est ici la fonction de transfert de ma résistance de charge. C'est quoi cette courbe-là ? Ici, c'est donc mon intensité collecteur, et ici, c'est ma tension que je vais avoir ici entre le collecteur et l'émetteur. Donc cette tension-là. D'accord ? Comment je la détermine, cette tension ? Déjà, elle va être variable selon l'intensité qu'il va y avoir dedans. Puisque je rappelle ici, j'ai une résistance. La résistance, elle est très con, elle. Elle applique la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm me dit que la tension au bord de ma résistance, c'est l'intensité multipliée par la résistance. Ok, donc plus j'ai d'intensité, plus ici ma résistance de charge va avoir de tension à ses bornes. Et donc, comme ma tension d'alimentation, elle est stable, elle est stabilisée, 9 volts, 10 volts, 12 volts, je m'en fous, c'est stabilisé, par différence, eh bien, la tension ici aux bornes de mon transistor, ça va être la différence. Donc, la tension aux bornes de mon transistor, c'est la tension d'alimentation moins la tension ici dans ma résistance de charge. Et donc, plus j'ai d'intensité, donc plus j'ai de tension ici en entrée, plus j'ai d'intensité dans ma base, plus j'ai d'intensité dans ma base, plus j'ai d'intensité dans ma résistance, déjà dans mon transistor, puis dans ma résistance de charge, et plus j'ai d'intensité dans ma résistance de charge, plus la tension au bord de ma résistance de charge est importante, et par conséquent, plus ma tension ici résiduelle entre collecteur et émetteur est basse. Et c'est donc ça qui me permet d'expliquer que mon transistor, quand il est monté en émetteur commun, inverse le signal que j'ai en entrée. C'est mon fameux déphasage de 180 degrés. Et donc, ce qu'explique ici cette... alors, ce n'est pas une courbe, là, en l'occurrence, c'est une droite qui m'intéresse, c'est la droite de cette résistance de charge. La résistance de charge, elle va me donner une tension, donc, et donc ça, cette tension, c'est la tension que j'ai sur mon collecteur. Et donc, la tension maximum que je peux avoir sur mon transistor, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand je n'ai pas d'intensité, et donc, c'est I est égal, enfin, tout au moins, l'intensité collecteur maximum, c'est, qui est très théorique, c'est I est égal à U sur R, au maximum. c'est-à-dire lorsque j'ai ici une tension qui est égale ici à la tension d'alimentation, et lorsque mon transistor ici n'a plus de tension à ses bornes. Évidemment, il ne va jamais fonctionner, donc c'est très théorique. Il n'empêche que ce point-là se calcule. Et donc, cette intensité, c'est la tension divisée par la résistance. À l'opposé, la tension maximum, c'est quand je n'ai pas d'intensité. Et donc, si je n'ai pas d'intensité, ici, je n'ai pas de perte de différence de potentiel aux bornes de ma résistance. Donc, mon transistor est alimenté par la tension ici, directement d'alimentation. Donc ça, c'est mon maximum. Et entre les deux, comme c'est une résistance, c'est une droite, et donc je tire un trait entre les deux pour faire ma droite. Et lorsque je vais regarder à quoi correspond, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout, mes 30 mA, je multiplie par 100, parce que j'ai un bêta de 100, ça me fait donc 3 mA, et ces 3 mA, lorsque je les applique sur ma résistance ici de charge, ça va me donner ici, je fais mon calcul, ça va me donner ici 5 volts. Donc j'ai 5 volts ici en sortie, mais par contre je ne sais pas quelle intensité j'ai. Enfin si, je sais que j'ai 3 mA. 3 mA qui passent ici dans la résistance, mais je ne sais pas combien arrive ici à travers le condensateur. Ça, il faut que derrière, j'ai un système qui me permette de récupérer une impédance qui va bien. Donc c'est assez compliqué, mais voilà, à quoi sert cette résistance de charge? C'est juste à récupérer l'information de tension, puisque l'intensité je l'ai, c'est juste à récupérer l'information de tension. Dans mes transistors montés en classe B, je n'utilisais pas ici de résistance de charge, mais je vais utiliser ici un transfo. Donc là, je récupère tout simplement mon intensité. Et ma tension, automatiquement, qui provient de mon système, hein, de la manière dont j'ai monté mon système. Et donc, j'ai tension-intensité, donc j'ai une impédance, et que je récupère ici en sortie. Et dans mon montage en classe C, encore une fois, je n'ai pas de résistance de charge. C'est juste, ici, mon circuit LC, et si je veux... si je mets ici un condensateur en sortie directement, du coup, je vais être plutôt en haute impédance. Et si je récupère ici un point milieu, je vais avoir... c'est là où je peux définir précisément l'impédance que je veux en fonction du nombre de spires que j'ai utilisé. Voilà. Donc voilà à quoi sert cette résistance de charge. Et lorsque je suis ici, pour terminer, sur mon collecteur commun, que se passe-t-il lorsque j'ai de l'intensité? Eh bien, l'intensité, si j'ai de l'intensité, donc entre base et émetteur, ça va augmenter ici la tension aux bornes de ma résistance de charge, et donc ça va augmenter la tension aux bornes de cette résistance de charge sur laquelle je récupère l'information. Au passage, vous remarquez que si j'augmente ici ma tension, je vais être à un moment coincé, puisque si j'augmente ma tension d'émetteur, ici, ma tension base-émetteur va être comme un petit peu pincée, quoi. C'est-à-dire que plus je vais avoir d'intensité ici, plus la tension va augmenter aux bornes de ma résistance de charge, et donc ça va faire diminuer la tension VBE. Donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, là. Mais ça, c'est quand on fait des montages, au bout d'un moment, on connaît les limites du raisonnement. Donc ça, c'est très important. Alors, pas de questions à l'examen sur ce schéma, mais par contre, quelques questions sur la résistance de charge, tout au moins, on les verra, les questions. Mais ça, c'est le plus important, et c'est ce qui explique pourquoi on a ce déphasage de 180 degrés. Donc là, je vous ai mis une application pratique avec des valeurs d'impédance. Donc par exemple, ici sur l'entrée, là j'ai 30 microampères et 1 volt. Donc ça me fait 33 kilo-ohms d'impédance sur la base. Et en sortie, j'ai 1666 ohms. Et quelle valeur de résistance je vais utiliser là pour faire ma courbe? Je fais donc 12 moins 5 divisé par 3 milliampères. Donc ça me fait 7 volts divisé par 3 milliampères et donc 2333 ohms. Donc la résistance de charge de mon circuit, dans ce cas-là, elle fera 2300 ohms. Précisément, j'utiliserai une valeur de 2200 ohms puisque une résistance de 2333, ça n'existe pas. Donc je vais utiliser la résistance normalisée la plus proche. Voilà, donc ça c'est la partie la plus compliquée, je dirais, une des parties les plus compliquées de la soirée. Il y a une deuxième partie qu'on va voir après. Entre les deux, on fait un petit. Alors, il n'y a pas de question à l'examen, mais c'est pour expliquer les liaisons que l'on a entre les étages. Donc, quand on a une chaîne d'amplificateurs, on peut relier ces différents amplificateurs par de manière différente. Donc, le premier système, c'est un système en direct. Donc là, j'ai deux transistors en cascade. Alors, c'est un montage un peu particulier, ça qui s'appelle Darlington, et qui permet comme ça de multiplier le gain que j'ai sur Q1 par le gain que j'ai sur Q2. Donc on a un gain très important. Comme je suis ici en collecteur commun, j'ai une impédance très faible, et donc souvent ce genre de montage est utilisé pour alimenter ici un haut-parleur qui a une impédance faible, puisque c'est entre 8 et 4 ohms selon le modèle. Voilà, donc typiquement c'est un montage qui est utilisé essentiellement dans le cadre des amplificateurs BF pour alimenter un transformateur. Mais on a quand même des problèmes, notamment liés au niveau de tension, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au niveau de tension qu'on va utiliser. Et pour éviter tous les problèmes de niveau de tension, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'impédance, mais aussi au niveau de tension. Et au bout d'un moment, on a trop à regarder. Et donc, pour éviter tous ces problèmes liés au niveau de tension, on verra ça quand on fera tout à l'heure la manip, on va vous montrer ça, on va utiliser soit des diodes en série pour faire chuter à chaque fois de 0,7 volts, okay. Ou alors, et ça c'est quand on est en courant continu, parce que ça, on sait faire que comme ça, ou alors, lorsqu'on est en courant alternatif, on va mettre un condensateur qui va séparer les deux étages et qui va faire en sorte que s'il y a une composante continue dans le signal, derrière le condensateur, elle n'apparaîtra plus. Puisqu'encore une fois, le condensateur laisse passer des courants alternatifs, mais il coupe les courants continus. Alors effectivement, c'est quelque chose, ce type-là, c'est quelque chose qu'on utilisait quand les FET n'étaient pas très, soit n'existaient pas ou pas très utilisés. Et donc, maintenant, on va plutôt utiliser des FET, puisque le FET, lui, par définition, il a une intensité qui est très élevée, puisque c'est son mode de fonctionnement. Hein, ce système-là, c'est pour augmenter l'intensité. Et puis la tension, elle, reste la même. Autre solution pour le courant alternatif, et l'avantage, c'est que ça permet d'adapter des impédances, c'est la liaison par transformateur. Le problème, c'est que ça coûte un peu plus cher parce que c'est un peu plus gros, Mais l'avantage, c'est que on adapte parfaitement l'impédance, alors que le condensateur, c'est pas aussi évident que ça. Voilà. Donc quand on est notamment dans des classes, dans de l'amplification, et qu'on recherche du rendement, parce que c'est ça aussi le problème, on va plutôt utiliser des transformateurs qui, avec lesquels l'impédance est parfaitement maîtrisée, et notamment l'impédance de sortie, puisque c'est celle-là, on verra ça quand on fera la partie adaptation d'impédance, où on va rechercher à avoir en sortie d'un émetteur du 50 ohms. Et puis enfin, on peut aussi utiliser des étages, alors qui n'amplifient rien du tout en fait, qui sont juste là pour adapter des impédances. Donc voilà, peut-être quelquefois aussi tout simplement des montages en collecteur commun qui vont permettre d'adapter les impédances entre deux étages. Et on va appeler ça des étages séparateurs ou tampons. Voilà. Et donc ça permet d'adapter soit des niveaux de puissance, sans pour autant faire des énormes amplifications, mais c'est surtout adapter les niveaux de tension et d'intensité, donc d'impédance entre deux étages. On en arrive aux amplificateurs RF purs. Donc là, on avait vu tout à l'heure un amplificateur lambda. Là, maintenant, on va s'intéresser aux spécificités des amplificateurs radiofréquence. Donc là, c'est plutôt ce que l'on va utiliser dans les amplificateurs, dans les chaînes d'amplification RF. Et donc, pour faire en sorte que le signal amplifié ne soit absolument pas déformé. C'est ça l'objectif. Donc là, je vous ai remis un amplificateur monté en classe A et, enfin quoi que je ne sais pas, parce que quand je vois un circuit bouchon derrière là, ça peut être un amplificateur monté en classe C. Enfin bon, on va dire en classe A et monté en émetteur commun puisque ma sortie, elle est bien sur le collecteur et mon entrée, elle est sur ma base. Donc il y a plusieurs choses à regarder. D'une part, ici, le système d'alimentation. Donc sur l'alimentation, on fait en sorte que la haute fréquence ne remonte pas dans ma chaîne d'alimentation. C'est-à-dire que mon 12 volts, là, on va faire en sorte que... Parce que mon amplificateur, finalement... Enfin, surtout si c'est un amplificateur de puissance, il va solliciter l'alimentation au rythme de la fréquence sur laquelle on émet. Et si du coup la tension d'alimentation de l'ensemble du circuit varie en fonction de la fréquence sur laquelle on est certain d'aller au-devant des ennuis. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va filtrer l'alimentation, enfin la remontée d'alimentation, plus exactement l'arrivée ici de l'alimentation. Et je filtre comment ? À l'entrée, ici, avec une bobine, ce qu'on appelle une bobine de choc, alors qui s'écrit en français « choc », mais qui est très mal traduit, parce que en anglais c'est « choc », c'est « H-O-K-E », et tout choc en anglais, ça veut dire étouffer, étrangler. Donc cette bobine de choc là, c'est en fait une bobine d'étranglement. Donc c'est pour faire en sorte que ici je n'ai que de l'intensité, puisque ma bobine, encore une fois, lorsqu'elle va voir un courant alternatif qui passe dedans, elle va bloquer, elle va l'étouffer, elle va l'étrangler. Et elle va l'étrangler et l'envoyer ici à travers le condensateur de découplage à la masse. Donc mon système là va faire en sorte que j'alimente du coup mon transistor avec une tension propre et que si jamais cette tension est variable, eh bien elle ne remonte pas dans ma ligne d'alimentation. Donc ça, c'est très important d'avoir ce genre de circuit, notamment quand on est en puissance, puisque quand on est en puissance, c'est très méchant, on a des pulses comme ça d'intensité. Donc ça, c'est le filtre sur l'alimentation. On a des liaisons ici par transfo. Donc l'entrée avec une impédance, donc une transformation d'impédance en entrée et aussi en sortie. Là, en l'occurrence, j'ai mis un point milieu, enfin un secondaire, pardon, sur la bobine ici de mon circuit LC. Et donc je récupère en fonction du nombre de spires ici, hein, puisque je connais l'impédance. Maintenant que je connais l'impédance de mon circuit bouchon, puisqu'il n'est pas parfait et que il a un facteur Q, ce facteur Q automatiquement va me donner son impédance à la résonance. Et donc, impédance à la résonance, je vais pouvoir calculer ici le nombre de spires au secondaire qu'il me faut pour obtenir ici la bonne impédance. Ah, donc, pourquoi? C'est pourquoi on a besoin de connaître l'impédance de mon circuit bouchon. Voilà à quoi ça sert derrière de savoir ça, de savoir le calculer. Et que donc si j'augmente mon facteur Q, du coup j'augmente mon impédance à la résonance, et donc peut-être que je vais diminuer ici le nombre de spires pour obtenir l'impédance voulue. Voilà. Donc ça, c'est deuxième point. Troisième point ici, c'est ma résistance ici de contre-réaction. Alors à quoi elle sert celle-là? Eh bien, on s'aperçoit que si on la met pas, on va avoir des problèmes d'auto-oscillation. C'est-à-dire que en l'absence de signal HF ici en entrée, ou s'il y a un signal HF de la même manière, on risque de faire en sorte que cet amplificateur servent aussi d'oscillateur. C'est-à-dire qu'on a des capacités parasites un peu partout qui vont finalement entrer en résonance et faire en sorte que mon amplificateur devient un oscillateur. Et tant qu'à faire, un oscillateur sur une fréquence qui n'est absolument pas la fréquence d'entrée. C'est tellement mieux. Et donc là, on est encore. Alors, quand on est en réception, c'est pas grave, on s'emmerde que soi-même. Quand on est en émission, c'est un peu plus gênant parce que du coup, on emmerde tout le monde. Voilà. Donc, pour éviter ça, eh bien, on a inséré ici cette résistance. Pourquoi? C'est que n'oubliez pas ici que je suis dans un montage, donc en émetteur commun, et que donc ici, le signal est déphasé de 180 degrés en sortie. Et si je ramène une partie du signal amplifié sur l'entrée, eh bien automatiquement, enfin la capacité d'auto-osciller de mon transistor est nettement atténuée et même supprimée carrément. Donc après, elle se calcule évidemment cette résistance de contre-réaction. Mais voilà, à quoi sert cette résistance de contre-réaction? Alors on verra la semaine prochaine que pour faire un oscillateur, et bien tout simplement, on va faire en sorte qu'on remplace cette résistance ici de contre-réaction par un condensateur, et au miracle, ben ça va osciller. Alors peut-être pas sur la fréquence qu'on veut, mais si on veut la fréquence qu'on veut, et bien on met une bobine et un condensateur série, et donc du coup ça va osciller sur la fréquence de résonance de ce circuit série, tout simplement. Et enfin, ici, on avait vu, quand on avait vu les transistors, que un des problèmes des transistors, c'est que quand ça chauffe, ça a tendance à avoir un gain supérieur. D'accord? Ce qui peut quand même poser des problèmes, puisque du coup, ben, ce n'est plus complètement linéaire, et que ma courbe qu'on a vue tout à l'heure, là, hein, ma courbe qui était là, eh ben, elle va être plus ou moins pentue selon la température. Et donc, du coup, eh bien, on va avoir ici le point ici de fonctionnement qui va se déplacer ici en fonction de la température. Ça peut être gênant. Et pour éviter ça, on met ici une résistance et un condensateur. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand l'intensité augmente, donc quand mon gain augmente, la tension aux bornes ici de ma résistance augmente, si bien que la tension base-émetteur diminue, ce qui automatiquement réduit le gain. Si bien que quand on choisit judicieusement ici la résistance, en fonction de ce que nous dit le constructeur, on dit ben, à 70 degrés, le gain passe à temps, eh bien on calcule cette résistance. Et alors on rajoute ici le condensateur, pourquoi ? C'est que l'intensité ici elle est variable, puisque je suis en courant alternatif, donc elle est variable, puisque l'intensité qui va passer dans la base, elle est variable, elle est alternative. Après il faut que je filtre ça, et donc je filtre avec ce condensateur, qui va se remplir et se vider au fur et à mesure de la tension d'entrée. Voilà. Donc tout ça, et quand on va regarder les schémas, on va souvent retrouver, alors peut-être pas systématiquement ces quatre fonctions, mais on va en retrouver au moins une ou deux. Voilà, donc ça c'est les fonctions spécifiques qu'on va trouver dans les étages, les circuits spécifiques qu'on va retrouver dans les filtres haute fréquence. Alors, le problème c'est que malgré toutes les précautions qu'on prend pour faire en sorte que mon amplificateur soit bien linéaire, ça veut dire qu'il multiplie exactement les valeurs d'entrée sur la valeur de sortie, hein, donc la tension multipliée par un coefficient multiplicateur, l'intensité multipliée par un coefficient multiplicateur, donc normalement tout devrait bien se passer, sauf que ben ça se passe pas toujours très bien. Alors c'est quand ça se passe pas bien, eh bien on dit qu'il y a des distorsions, c'est-à-dire la fonction de transfert, donc le coefficient multiplicateur, n'est pas vraiment toujours le même. Et donc, ce coefficient multiplicateur, il peut être différent selon deux choses. Premièrement, selon la fréquence. Exemple, vous avez trois fréquences différentes à amplifier, eh bien, elles seront amplifiées de trois manières différentes. Alors, si c'est par exemple en début de bande et en fin de bande, c'est pas trop grave. Vous savez juste qu'en début de bande, ben, vous aurez 100 watts et en fin de bande, vous aurez 120 watts. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un système où vous avez F1 et F3 même niveau et F2 plus important. Donc en début de bande 100 watts, en fin de bande 100 watts et au milieu de bande 120 watts. Bon. Ça encore, c'est pas trop grave parce que vous n'émettez pas sur l'intégralité de la bande. En revanche, ça devient un peu plus problématique si vous avez ce problème-là dans votre propre système d'émission, dans votre émission. Parce que du coup, vous allez avoir, je dis n'importe quoi, en BLU, les graves qui vont être plus amplifiés que les aigus, ou inversement. Donc là, ça commence un peu à compliquer. Alors, ces distorsions de fréquence sont gênantes, mais elles ne sont pas catastrophiques. Ça génère pas trop de problèmes. Et notamment, on retrouve ce genre de problème lorsqu'on met en sortie d'amplificateur un circuit LC ou RC, URL, enfin un filtre passe-haut, passe-bas ou passe-bande, parce qu'évidemment on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques selon la fréquence. Alors voilà, donc c'est gênant, mais c'est pas catastrophique. En revanche, ce qui est catastrophique, ce sont les distorsions, ce qu'on appelle les distorsions harmoniques ou les distorsions d'amplitude. Je m'explique. Lorsque on a une fréquence en entrée et que le signal est déformé, automatiquement, ça c'est, souvenez-vous, on avait vu cette fameuse loi de Fourier là, et c'est Fourier qui nous disait que un signal alternatif, c'est la somme de sinusoïdaux de fréquences multiples. Hein. Et donc, c'est exactement, on va voir juste après, j'ai fait une présentation sous Excel qui vous montre mieux ça. Donc, j'ai un signal d'entrée qui a une fréquence qui n'est pas linéaire, et donc, en sortie, je vais avoir donc la fréquence amplifiée d'entrée, ce qui est normal quand même, c'est le minimum, mais je vais avoir aussi une distorsion harmonique. Là, en l'occurrence, je vais avoir l'harmonique 2 avec une tension qui va être de 2 volts, alors que j'ai 4 volts ici sur ma fréquence fondamentale. Et ça, c'est ce qui va déterminer le taux de distorsion harmonique, qu'on appelle aussi le TDH, et qui est donné en pourcentage. Et le pourcentage, c'est quoi? C'est la tension du signal parasite divisé par la tension du signal d'origine désirée, que l'on veut amplifier, en fait. D'accord? Et donc, là, en l'occurrence, c'est pour mon taux de distorsion d'harmonique de mon harmonique 2, mais je peux avoir sur l'harmonique 3, l'harmonique 4, l'harmonique 5, autant que je veux. Et quand je veux calculer le taux de distorsion harmonique totale, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs types d'harmoniques, une harmonique 2, une harmonique 3, etc., je peux soit déterminer le taux de distorsion harmonique de chaque harmonique, et si je veux déterminer le taux de distorsion harmonique totale, eh bien, il faut que je prenne c'est la racine carrée des tensions au carré de mes différentes fréquences harmoniques. On va voir alors précisément comment ça se passe dans le signal ici que j'ai là, comment ça se passe réellement. Donc j'ai mon signal d'entrée. Mon signal de sortie, c'est la même chose, sauf qu'il est déformé. Et vous remarquez quand même qu'au passage, il est ici déphasé de 180 degrés, c'est-à-dire que je commence ici par quelque chose qui est une alternance négative, alors qu'ici j'ai une alternance positive, et je vois que mon signal, il est complètement écrasé sur la partie haute, enfin, sur les alternances positives. Ce qui, du coup, il n'est pas, l'amplification n'est pas linéaire. Je n'amplifie pas de la même manière ici l'alternance positive et ici l'alternance négative. Donc c'est ça qui me pose problème. Et concrètement, c'est quoi ce signal de sortie? C'est mon signal d'entrée amplifié, tout va bien, mais aussi un signal ici d'harmonique 2, donc deux fois la fréquence. Et quand on regarde bien, quand on additionne, quand on superpose ces deux signaux, ici, eh bien, ça me donne ici le signal qui est là. Donc, quand je suis en phase, ici, ça va s'additionner. Donc, sur les alternances négatives, ça va s'additionner. Et sur les alternances positives, ici, eh bien, ça va tasser, en fait. Vous voyez ? Donc, voilà. Il y a des signaux en phase et des signaux en déphase. Et quand on superpose les deux, eh bien c'est comme si on avait finalement deux signaux avec deux fréquences différentes, dont la deuxième, ici, c'est l'harmonique 2. et je peux avoir la même chose avec une harmonique 3. Alors évidemment, le signal ici de sortie aura une autre forme. Mais, voilà. Je vais vous passer le... Alors j'ai un fichier Excel qui est là. Ouais, le voilà, ça marche. Voilà. Alors, je vous ai mis. Alors c'est un fichier Excel. Donc ici vous avez toutes les formules. Je vous ai mis le lien sur le PDF. Donc si vous voulez revenir dessus, je vais vous le passer. Copier le lien. Je vous le passe sur le chat. Coller. Ah, je ne l'ai pas récupéré. Il est où ? Alors, copier le lien. Ok, et si je fais ça ? Ah non, il veut pas. Pourquoi il veut pas coller ? Non, il est pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut pas ? Pourquoi il veut pas ? On va faire un truc plus violent. Copier. Voilà. Donc c'est un fichier Excel où j'ai essayé de modéliser un petit peu un système. Alors, que je vous explique. Ici, ça c'est un signal. Enfin, j'ai trois signaux. J'ai un signal bleu, un signal rouge, un signal vert. Et ici, ce signal-là, c'est la somme. Donc la superposition de ces trois signaux. Ici, donc, c'est ma fondamentale. Ici, c'est la première harmonique. Ça, c'est donc la deuxième. C'est une harmonique 2. Et l'harmonique 4, mais je n'ai rien mis. Hein, je n'ai pas mis de coefficient. Donc, ça veut dire que derrière, là, j'ai rien. Si j'en mets un tout petit... Alors, juste un truc, je commence par ça. C'est que au départ, j'avais disons dit un taux de distorsion harmonique de 50%. On va voir que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si je prends un taux d'harmonique de 50%, voilà à quoi correspond le signal. Donc on voit ici que ce type d'amplification n'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire qu'on n'a aucun amplificateur qui, à un moment, revient en arrière. En revanche, on peut avoir des amplificateurs qui ont des problèmes de saturation. Et donc, pour la saturation, on ne peut avoir ici un taux de distorsion harmonique supérieur à un coefficient, un taux de distorsion harmonique supérieur à 28%. Pourquoi ? Voilà mes 20. Alors, précisément, c'est 27,8. Voilà, parce que au-delà, on commence à creuser un peu. Et si on est en dessous, eh bien, on va juste limiter. Là, on a vraiment écrété, donc on est vraiment à la saturation du transistor. Et quand on est en dessous, on est limite inférieure à la saturation. Donc, on peut, en théorie, ne pas avoir plus de taux de distorsion harmonique pour l'harmonique 2 de 28%. Donc mon 50% que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est une vision faussée. Voilà. Donc par exemple, je fais 0.125. Voilà. Et donc là, je tasse un petit peu. Et je peux aussi le faire sur... Ici, l'harmonique 4. Par exemple, ici, 0.0625. Donc là, j'en rajoute un petit peu et vous voyez que ça a encore une forme différente. Donc là, c'est... je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Voilà, on peut imaginer des tas, on peut mettre même un coefficient négatif, si ça se trouve, ça va donner encore autre chose. Voilà, donc ça va donner encore une autre forme de signal. Et vous remarquez que quand on va mettre des harmoniques paires, c'est systématiquement, on va déformer le signal. Déformer, c'est-à-dire faire en sorte que le haut et le bas, enfin les harmoniques, les alternances positives et négatives, n'ont pas la même forme. Ok ? Lorsque je vais utiliser ici des harmoniques impaires, on va avoir la même forme du signal ici en haut, enfin en alternance positive et en alternance négative. Et ici, si je mets plus de déphasage, déphasage, voilà, 0. Oula, là j'ai dû merder. Qu'est-ce que j'ai merdé? Revenir en arrière. Voilà, donc je vais plutôt mettre ça, 0, hop, voilà. Donc ça a cette forme-là, ici, je mets point, 0,625. Après, on peut s'amuser à faire différentes, voilà. Et là, on a quelque chose qui est pas trop déconnant. Voilà, je vais vous laisser ce fichier Excel là pour que vous bricoliez dessus. Oui, c'est l'harmonique 5, je n'ai pas changé. Voilà, et voilà, il est un peu plus propre comme ça, donc on voit bien que c'est bien symétrique entre l'alternance positive et l'alternance négative, et ça c'est pour les harmoniques impaires. Je vais revenir sur le PDF pour vous montrer toutes les possibilités que j'avais sorties. Voilà, donc ici avec un taux de distorsion harmonique juste pour l'harmonique 2. Donc ici, donc le premier taux d'harmonique avec un taux de distorsion harmonique de 12,5%. Donc ici avec une harmonique deux fois la fréquence, donc une harmonique l'harmonique 2, ici l'harmonique 3, et ici l'harmonique 2 et 4, et ici l'harmonique 3 et 5. Donc on voit qu'avec des harmoniques, ici on a une sortie du signal qui n'est plus la même, qui est asymétrique, alors qu'elle est symétrique lorsque j'ai des harmoniques impaires. Donc ça c'est important. Voilà, quand on bricole, de savoir qu'est-ce qu'on risque de générer comme type d'harmonique. Quand on est dans un amplificateur en classe A, typiquement, c'est qu'on risque soit d'être en saturation ou en blocage, et donc on risque d'être plutôt en harmonique paire, alors que quand on est avec un transistor monté en classe B, avec en particulier le problème de recouvrement de mes deux transistors, donc vous allez plutôt avoir typiquement des problèmes d'harmonique impair. Voilà. Les distorsions quadratiques. Alors, les distorsions quadratiques, c'est lié au fait que mon amplificateur n'est pas linéaire et que donc il va se comporter comme un mélangeur. Un mélangeur, on verra ça la semaine prochaine, c'est un cas particulier d'amplificateur qui n'est pas linéaire. Et quand c'est pas linéaire, on va avoir des fonctions de transfert plus compliquées que ce que l'on a normalement. Et donc, si on a deux fréquences à l'entrée d'un amplificateur, on va se retrouver en sortie avec des mélanges, c'est-à-dire que, évidemment, en sortie, si on a F1 et F2, on va retrouver encore F1 et F2. Ça, ça va bien. On va avoir, comme c'est une distorsion quadratique, on va avoir 2 fois F1 et 2 fois F2. Ce sont des amplifications, des distorsions d'amplitude. C'est normal puisque c'est une distorsion quadratique. Donc c'est une distorsion d'ordre 2, mais aussi des mélanges. C'est-à-dire, un mélange, c'est quoi ? C'est, je fais l'addition et la soustraction des deux fréquences. C'est-à-dire qu'en sortie de mon amplificateur, qui a donc des distorsions quadratiques, je vais retrouver F1 et F2. Évidemment, c'est les plus fortes, c'est les plus forts de ces signaux-là, c'est normal. Mais je vais aussi retrouver 2 fois F1 et 2 fois F2, en fonction du taux de distorsion harmonique. Et enfin, je vais retrouver les mélanges, F1 plus F2 et F1 moins F2, ou F2 moins F1 selon le sens, selon quelle est la plus forte et la plus faible, la plus petite. Sachant qu'une fréquence ne peut pas être négative. Donc, si vous trouvez quelque chose de négatif, il faut prendre la valeur absolue. Voilà, donc ça, ce sont des problèmes complémentaires qui viennent se greffer. Et ça, c'est qu'encore une fois, quand votre amplificateur n'est pas linéaire. On verra, quand on verra les mélangeurs la semaine prochaine, ce que ça veut dire. Autre type de distorsion qui est encore plus méchant, ce sont les distorsions dites cubiques, avec des distorsions du troisième ordre. Donc c'est exactement comme les quadratiques, là, sauf que c'est pas multiplié par 2, c'est multiplié par 3. Donc on retrouve F1, enfin, en sortie de mon amplificateur, évidemment je retrouve encore F1 et F2, c'est normal, c'est ce que j'ai amplifié. Je vais aussi retrouver 3 fois F1 et 3 fois F2, puisque c'est une distorsion harmonique d'ordre 3, donc du troisième ordre, donc des fréquences multipliées par 3, mais aussi l'ensemble des mélanges possibles et imaginables. Donc 2 fois F1 plus F2, 2 fois F2 plus F1. Alors, en règle générale, c'est pas trop grave. Pourquoi ? C'est que toutes ces fréquences-là, elles vont se retrouver très loin, au-delà de la fréquence à amplifier. Et donc, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est mettre un filtre passe-bas à la sortie de mon amplificateur. Et donc, toutes ces fréquences-là, du coup, bah, elles sont filtrées, elles sortent plus. Elles sont coincées. En revanche, on a deux couples de fréquences qui sont très gênants parce que elles vont se retrouver finalement très proches, notamment si F1 et F2 sont très proches. Et donc c'est 2 fois F1 moins F2 et 2 fois F2 moins F1. Ces deux mélanges-là sont très difficiles à éliminer. Pourquoi ? C'est que ce sont des fréquences qui vont être très proches de mes deux fréquences amplifiées. Et donc, avec tous les problèmes que ça peut générer derrière, et c'est notamment pourquoi on utilise un générateur de ton quand on est en BLU. On verra ça quand on fera la BLU, mais voilà, quand on a de la distorsion cubique sur un émetteur BLU, on va au-devant de gros ennuis. Et on verra ça quand on parlera de la BLU à la fin du cours. Donc, question d'examen, et ça, il y en a eu de ce type-là. À l'entrée d'un amplificateur non linéaire générant des distorsions quadratiques, les fréquences 1 kHz et 100 kHz sont présentes. Quelles sont les fréquences en sortie ? Donc, les fréquences en sortie, c'est 1, 2 fois 1, donc 2. On a 100 et 200, puisque 100 plus 100 fois 2. Mais on a aussi 100 plus 1 et 100 moins 1. Donc on a 99 et 100. Et 101, pardon. Donc vous avez ces 6 fréquences-là, avec des niveaux plus ou moins élevés, évidemment, selon le taux de distorsion harmonique. Même question avec 99 kHz et 100 kHz. On va donc retrouver 99 et 100, tout va bien. 99 et 100. On va retrouver 2 fois 99 et 2 fois 100, 198 et 200. Mais on va aussi retrouver 100 moins 99, donc 1, et 100 plus 99, 199. Et vous remarquez que avec un filtre, alors passe bas, on vire les 198, 199 et 200. Il restera le 1 kHz, mais enfin, on va dire que comme il est très éloigné, on peut aussi le filtrer par un filtre passe haut. Voilà. En tout cas, ça marche. Et dans ce cas-là, si on a 1 kHz et 100 kHz, là, on a quand même quelques petites fréquences qui vont nous gêner entre les deux. Tout au moins, si je ne peux pas utiliser juste un filtre passe-bas, ça ne va pas être suffisant parce que mon 101 il est trop proche du 100. Il n'y a que le 200 kHz que je vais pouvoir filtrer. Le reste, je vais être vraiment embêté. Enfin, l'amplificateur génère à présent des distorsions cubiques. Quelles sont les fréquences de sortie? Donc toujours avec 99 et 100. Donc les réponses, l'ensemble des réponses, c'est donc 99 et 100. Ok, ça marche. Mais je vais aussi trouver 2 fois 99 moins 100, donc c'est-à-dire 98, et 2 fois 100 plus 99, moins 99, donc 101. Et donc ces quatre fréquences-là, on voit qu'elles sont très proches l'une de l'autre, et que je vais avoir du mal à les filtrer, alors que toutes les autres fréquences, donc 3 fois F1, 2 fois F1 plus F2, etc., toutes celles-là sont largement au-delà, et donc en fait, je peux filtrer très facilement et les éliminer. Mais en tout cas, les deux autres, là, 98 et 101, vont me poser des problèmes. Parce qu'en fait, j'ai généré des fréquences qui n'existent pas à l'origine. Les questions d'examen maintenant. Quelle est la classe d'amplification qui a le courant moyen le plus élevé? Donc on a le courant moyen le plus élevé. Donc c'est en fait la tension de repos la plus élevée. Le courant moyen, donc c'est la tension de repos, finalement, qui est le plus élevé, et donc c'est la classe A. Là, le courant moyen, donc c'est le courant moyen dans le transistor, et donc celle qui a le courant moyen le plus élevé, il y en a toujours, et donc c'est la classe A. La classe B, elle n'en a pas de courant, elle n'a pas de courant, à tension de repos. Par définition, il n'y a pas de courant. Quant à la classe C, encore moins. Quelle classe d'amplification a une tension de repos nulle? Donc ça, c'est la classe B. Puisque la tension de repos, c'est le moment où le transistor qui amplifie l'alternance positive passe la main à celui qui amplifie l'alternance négative et inversement. Quel type de modulation est adapté à un amplificateur en classe C? Donc AM, AM et BLU, BLU, CW et FM. Évidemment, c'est la dernière réponse. Voici les réponses. Quel est le nom de la résistance marquée R dans ce schéma? Donc, la résistance marquée R, ici, c'est la résistance de charge. Et dans les propositions, il y a charge, contre-réaction, équilibrage, résistance d'alimentation. Et évidemment, c'est la résistance de charge. On a beaucoup de questions sur le taux de distorsion harmonique. Alors, de l'harmonique 2, de l'harmonique 3, etc., etc. Donc ici, on demande le taux de distorsion de l'harmonique 2. Et évidemment, on vous propose ici la fréquence fondamentale, l'harmonique 2, l'harmonique 3 et l'harmonique 4. Et on vous demande bien, c'est l'harmonique 2. Donc c'est celle-ci et uniquement celle-ci. Et donc, dans ce cas-là, c'est 8 divisé par 20, donc 40%. Et encore une fois, c'est impossible, puisqu'on a vu tout à l'heure que, ou tout au moins, ce n'est pas un amplificateur qui est en classe A qui serait saturé. C'est autre chose. Puisque après, ça fait le rebond dont on avait parlé dans la représentation Excel. Quel est le taux de distorsion harmonique de la fréquence 2? Donc la fréquence 2, c'est celle-là. 2 quoi? Mégahertz, gigahertz, aucune idée. Et donc là, c'est 2 divisé par 20, ça me fait 10%. Ça, il faut bien faire attention. Le piège ici, c'est sur le terme fréquence et ici harmonique. Donc voilà. Hein, ne pas confondre harmonique et fréquence. Quel est le taux de distorsion harmonique totale? Donc ici j'ai 5 mégas, 10 mégas, 15 mégas, avec ici 3 volts et 4 volts. Donc je fais racine carrée de 4 fois 4, 16, plus 9 fois 9, 3 fois 3, 9. Donc racine carrée de 25, et ça me donne donc 5. 5 par rapport à mes 10 volts, et donc j'ai donc un taux de distorsion harmonique de 50%. Avec quel instrument mesure-t-on les harmoniques? Bonne question. Est-ce un multimètre numérique, un multimètre analogique, un analyseur de spectre ou un bolomètre? Évidemment, tous ces appareils existent, mais ce que je veux vérifier, moi, c'est par rapport aux fréquences. Donc c'est quelque chose qui m'affiche différentes tensions en fonction de la fréquence. Et ça s'appelle un analyseur de spectre. Un multimètre ne va pas vous donner cette tension par fréquence. Il va vous donner pour l'ensemble du courant, mais il ne va pas vous déterminer, vous le faire fréquence par fréquence. Il va vous le faire globalement. Il va vous donner un taux global, total. Et que ce soit analogique ou numérique, ça ne change rien. Un bolomètre, alors ça existe en plus, c'est un truc un peu spécial, ça mesure une température. Et cette température permet de déterminer la puissance. Donc c'est quelque chose qui permet donc de déterminer la puissance à partir de la température d'une résistance ou d'un corps. Voilà ce que c'est qu'un bolomètre. Effet d'une self de choc dans un étage RF. Bloquer le passage du courant HF. Éliminer les harmoniques, augmenter la puissance, éviter les auto-oscillations. C'est éviter le passage du courant HF et qui remonterait donc dans la ligne d'alimentation. Voilà. Et donc le bolomètre, évidemment, on a difficilement... on mesure une température, donc on ne sait pas quelle fréquence est le signal. Il peut être aussi continu que alternatif, on n'en a aucune idée. En tout cas, on ne peut pas trier par fréquence. Et le seul instrument de mesure, ça ne peut être que l'analyseur de spectre. Voilà. Alors malheureusement, comme on est confiné, je ne peux pas vous montrer notre bel amplificateur qu'on a au Radio Club. Donc, j'ai récupéré les photos qu'on avait fait les années précédentes. Donc, ça, c'est un amplificateur HF. Voilà. Bon, on n'a pas une vision globale de la chose. Donc, c'est un amplificateur HF. qui a été montée il y a 20, 30, je pense 30 ans, ouais, ça va faire une trentaine d'années, par un membre du Radio Club qui avait récupéré des composants et qui a donc monté un joli amplificateur. C'est monté à partir d'une de tubes. Donc c'est des tubes, ce sont des 813. Alors je crois que c'est des tétrodes, mais je suis pas certain. Donc, excusez-moi si je froisse certains. En tout cas, les tubes là sont là. On va commencer par cette partie-là. Donc ici, on voit les deux tubes ici. Ici, le système, donc ils sont montés en parallèle. Ils sont montés en parallèle, on voit bien, ils sont alimentés ici par le même système. Donc c'est pas une classe B, c'est en classe AB que c'est monté. Et c'est même du AB1, je crois, pas certain, mais ici on voit ici le système d'alimentation avec ici la bobine et le condensateur qui va permettre d'éviter que la HF remonte ailleurs. Et donc elle va être court-circuitée ici, la HF. Ok. En sortie, ici on a un circuit oscillant, donc on voit la grosse bobine et ici le condensateur. Alors même on a plusieurs bobines. On a une bobine ici parce que ça fait plusieurs bandes. Et donc ici, on a le contacteur qui permet de sélectionner la bobine ou la partie de la bobine qui va bien pour la bande. Ok. Et en dessous, donc là, toute cette partie ici en dessous des tubes, ici on voit les câbles coaxiaux qui se baladent, on a le circuit de commande et d'alimentation des tubes. Donc ici, on voit des socles ici des deux tubes. Ici c'est tout le circuit d'entrée. C'est le circuit d'entrée avec, alors je sais plus où il est. Il doit y avoir les condensateurs ici de neutroudinage. Alors je pense que c'est celui-là, pas certain. Mais ces condensateurs là, ou non, ça doit être ceux-là. Ces condensateurs, c'est, alors je rappelle, le neutroudinage, c'était ce qui permettait c'est le système qui permet au tube de ne pas auto-osciller. Et donc on rajoute des condensateurs entre grille et cathode pour éviter que ça auto-oscille. Et donc que l'amplificateur devienne un oscillateur. Et donc ici, ce sont ces condensateurs qui sont là. Ici, ça, ce sont les diodes, puisque la tension, elle va être ajustée. Parce que les tubes, ça va marcher comme pour les transistors. Hein. Enfin, moi, les classes d'amplification, ça va marcher finalement comme les transistors. Et donc là, on va faire en sorte de positionner exactement le signal d'entrée au moment où le tube commence à amplifier. Et on va utiliser pour cela, ici, des diodes qui sont montées en série pour ajuster la tension d'alimentation de la grille. Puisque là, je suis avec des tubes, donc j'alimente sur la grille. Et je récupère ici mes valeurs, ici sur la plaque, puisque ici c'est ma sortie que j'alimente ici, et donc ça c'est mon circuit de sortie. Et mon entrée, donc elle est alimentée ici sur la grille, ça envoie sur la grille. Ici ça c'est le relais coaxial, le relais de commutation, donc passé émission-réception. Qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant Ah oui, ici les bobines de choc. Ici une bobine de choc, et donc la deuxième dont on a parlé ici. Ça, ce sont les deux bobines de choc qui permettent comme ça, ça ne remonte pas dans l'alimentation. Voilà, donc C'est dommage que j'ai pas le matériel, ça permettrait de mieux comprendre qu'avec des photos, mais bon, c'est mieux que rien. Et enfin, pour terminer la soirée, je vous ai trouvé ça sur Internet. Donc les autres années, je faisais une présentation avec un générateur et l'oscilloscope pour montrer comment fonctionnaient les différentes classes d'amplification. C'est pas très facile, facile à comprendre. Et donc j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé un site internet, c'est un simulateur de circuit électronique. Alors ceux qui bricolent un petit peu connaissent peut-être Spice. Et donc en fait c'est une version Spice qui est en ligne. Spice c'est donc un simulateur qui est très complet, qui est gratuit pour sa version light, qui s'appelle LT Spice, que vous pouvez télécharger. Voilà, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, enfin c'est très complet, mais du coup c'est complexe. Donc l'alternative c'est ce logiciel en ligne, donc il n'y a rien sur votre machine, que vous pouvez utiliser et faire des circuits à demande. Donc je vais le lancer, si ça veut bien. Hop. Je passe sur Firefox. Alors vous allez voir, la page d'accueil est assez sympathique. Alors je la relance parce que du coup, voilà. La page d'accueil, c'est un circuit oscillant. Et c'est un circuit oscillant amorti. Donc première étape, ici, je remplis ma bobine. Avec ici, donc j'ai ma pile qui se déverse ici dans ma bobine à travers une résistance de 100 ohms. Voilà, donc voilà, ça tourne. Ici, j'ai un interrupteur. Je relâche l'interrupteur et qu'est-ce qui va se passer? Ça va rentrer en oscillation. Lorsque j'ai ici du vert, ça veut dire que c'est une tension positive et quand c'est du rouge, c'est une tension négative. Ici, on voit le courant qui tourne. Qui oscille, justement, qui remplit et qui vide le condensateur. À chaque fois, ça change de couleur, c'est parce que c'est la souris hein, qui arrive dessus. Voilà. Et qui montre aussi quelle courbe ici on va visualiser. Donc quand je me mets ici, ça visualise ici sur la courbe qui est en dessous. Si je vais sur la bobine, ça va ici sur la bobine qui est à gauche, et la résistance ici. Voilà, vous remarquez que ma bobine, elle déphase en avance, hein. Mon condensateur déphase en arrière, et ma résistance, elle déphase rien du tout. Au bout d'un moment, mon système va être alors, le fichier Excel, il est passé où? Pourtant, c'est bizarre, le fichier Excel, je pense que quand je clique dessus, c'est bon. Ça va le chercher ou pas? En tout cas, sur le fichier PDF, c'était bon. Hein. Donc, il doit y avoir sûrement quelque chose encore qui va pas. Je cherche désespérément. Je vois pas ce qui ne va pas dans l'URL. Ou alors, je l'ai mis sur le... Non, je pense pas l'avoir mis sur le répertoire MP3. Je sais pas. Faut que je cherche pourquoi. Donc, voilà mon système. Comment ça fonctionne. Et à partir de là, j'ai des tas de circuits qui me sont proposés, dont notamment un transistor avec un amplificateur émetteur commun. Hop, et voici mon amplificateur. Donc ici, j'ai un joli amplificateur. J'ai un joli amplificateur avec qui va fonctionner. Donc ici on voit mon pont, ici mon pont diviseur. Alors déjà c'est du 20 volts, hein. Donc mon pont diviseur, donc 10 et 110, donc grosso modo ici j'ai 2 volts. Si je mesure ici, est-ce que je vois ma tension? Je la vois pas. Si résistance, je l'ai en bas à droite, et donc en termes de tension, je me balade entre 1 et 2. Voilà. Donc j'ai entre 1 et 2 volts ici, à cet endroit-là. Donc ici j'ai mon transistor, et ici mes deux condensateurs. Voilà. Je n'ai quasiment rien ici en termes de courant par rapport au reste. Là ça bouge quasiment pas, parce que ici ça ne fait que du courant alternatif. Ici je peux changer la tension, c'est-à-dire que je clique droit, je fais Edit. Ici j'ai une composante continue à 0 volts. Je peux la passer à 5 volts par exemple. Toc. Je fais OK. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va d'abord se casser la figure, puis après remonter légèrement. Pourquoi? Parce que mon condensateur ici va faire en sorte de ramener la tension au nominal. Hein, ici, ma tension elle est bien positive, hein, j'ai bien rajouté mes 5 volts, alors qu'ici, ma tension en sortie, elle n'a pas bougé. Elle a bougé au départ, et après, elle ne bouge plus. Donc ici, j'ai mes deux résistances ici, une résistance au pied, alors, qui va me servir à ajuster l'impédance en sortie, et ici, ça, c'est ma résistance de charge. Alors, juste un truc, c'est que vous n'allez jamais trouver une résistance ici de 110 kΩ. Vous allez trouver 120 kΩ, mais jamais 110. Donc, et même chose, le condensateur de 5 microfarads, vous allez avoir un peu de mal à le trouver, à mon avis. Mais bon, vous allez trouver 5,6, mais pas 5 tout court. Donc, voilà. Et à partir de là, parce que là c'est un amplificateur en classe A, je me suis amusé à modifier à la marge. C'est très facile à modifier, on va essayer de le faire en live. Et si j'y arrive pas, je vais rechercher mon circuit. Donc là par exemple, je supprime ça, donc j'appuie sur la touche suppresse, c'est supprimé. Et je rajoute ici une résistance variable, potentiomètre, voilà. Que je mets là, voilà, et ici je vais dessiner, j'ajoute un fil entre là et là, et un fil entre là et là. Là je vais utiliser, je vais modifier la valeur de ma résistance. Je ne vais pas mettre 1 kΩ, je vais mettre 50 kΩ, donc je mets 50K. Et donc ici, le système essaye de se stabiliser. Je remets ici, Edit, mes 0 volts, parce que c'est plus facile. Vous allez voir pourquoi, c'est que maintenant je vais mettre ensemble les deux ici, mes deux oscilloscopes. Donc je fais oscilloscope combiné, donc ils se mettent les uns sur les autres. Et maintenant ici je vais modifier propriété d'oscilloscope, alors vertical, manuel. Donc je définis mon channel, je définis, voilà, 500 milli, voilà, même comme ça, c'est bon, et mon channel 2, je... Il est un peu trop important. Non, ça doit aller. Donc là, j'ai pris 2 volts par... par... comment, division, voilà, je cherchais le terme, je fais OK. Et là, ce que je vais faire, je vais bouger ma résistance, donc la mettre vers le bas. Alors, si je la, ici, si je diminue ma résistance, je vais être en mode, j'ai mis un peu trop là. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Hop, toc. Si je mets 5 volts, voilà, ça va aller mieux. Ok, donc je vois ici, si je mets, je suis ici en transistor, mon transistor, il est bloqué. Tout au moins, il n'y a qu'une partie du, hein, parce que ici, je peux encore diminuer pour être complètement, et là, il est complètement bloqué. Hein, mon transistor, ici, il est complètement bloqué, ici, c'est un signal qui est tout plat. Et dès que je vais donner un tout petit peu ici de valeur à ma résistance, donc là, voilà, 2,2, là je vais être finalement en classe C. Vous voyez que j'ai toujours ici mon déphasage de 180 degrés entre mon entrée et ma sortie. Hein, je les ai mises les uns sur les autres, donc on voit bien. Je vais, lorsque je vais être aux alentours ici, je vais être ici en classe B, à peu près, hein, faudrait positionner, j'ai peut-être été un peu trop loin ici, il faudrait que j'ai exactement une demi-alternance, alors c'est très pointu, voilà, je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là où je suis en classe B, donc là, il me faut un deuxième transistor pour amplifier la deuxième classe d'amplification. Il y a dans tout le système, là, dans tous les circuits, aussi un amplificateur en classe B. Et puis, j'augmente encore un peu, je vais obtenir la classe AB vraiment à la limite. Voilà, là je dois être, donc je m'étais un peu trop loin. Ah, c'est très pointu, très précis. Donc là je suis en classe AB2 puisque j'ai une partie ici qui a été ici bloquée. Et lorsque je vais un tout petit peu au-delà, je suis à la classe AB1. Et quand je viens ici, là, je suis en classe A. Alors évidemment, on n'a pas l'impression que ce soit bien linéaire, parce qu'en fait, j'ai pas la même échelle de valeur entre mon entrée et ma sortie sur mon oscilloscope. Hein. J'ai une tension ici j'ai une tension et une autre ici. Une autre pour ma sortie. Il y a aussi un truc intéressant que je... Alors, circuit, que j'avais rajouté sur mon petit circuit. Où est-ce qu'il est ? Ben, je ne le vois plus. Oh là, ça y est, il est planté, pépère. Si. Diode, ou alors c'est, voilà, dessiner des sorties, et là je vais récupérer, je vais sélectionner un point de test, et là je vais mesurer le point de test ici. Et donc là, comme ça, j'ai une tension, je peux mesurer ma tension. Donc c'est une tension instantanée. Mais moi, ce qui va m'intéresser, finalement, c'est ma tension. Edit. Je veux une tension max. Hein, j'ai tension maximum, minimum, point à point, enfin point to point. Valeur binaire, j'en ai rien à faire, et valeur efficace non plus. Donc j'ai la valeur maximum. Et donc là, c'est la valeur pic. Donc là, ma valeur pic, elle fait 2,26. Ici, je sais que ça fait 500 millivolts. Donc 500 millivolts en valeur max. Donc en crête à crête, j'ai 1 volt. Donc ici, ma tension, elle varie entre 1,2 volt et 2,2 volts. Voilà. Et puis si j'augmente ici trop la valeur de ma résistance, vous allez voir que ça va diminuer. Et là, quand je vais être là, mon transistor, il est saturé. D'accord ? Donc, et c'est là où je peux avoir des problèmes de distorsion. Donc il peut être soit bloqué ici, hop, ça va être bloqué, encore un peu, soit au contraire il va être saturé. Et ce qui va changer du coup, c'est la tension ici au niveau de mon point de test. Hein, là je suis très élevé en tension, et lorsque je diminue ma tension au point de test, là, diminue et même devient quasiment inférieure ici à mes 0,7. C'est pour ça qu'il ne se passe rien. Mon transistor est bloqué. Et là, je ne vous dis pas le nombre de circuits que vous avez possibles. Voilà, il y a plein de possibilités pour vous amuser. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, un suiveur push-pull, un transistor en classe B, voilà. Derrière, il y a plusieurs. Allez, qu'est-ce qu'il veut derrière là? Moi, bon, je sais pas ce qu'il veut. J'ai des multivibrateurs aussi, des triggers de Schmitt, voilà. Et il y a plein de choses concernant aussi des trucs purement radio, donc sur les lignes de transmission. Là, vous avez plein de schémas, notamment avec les ondes stationnaires et les filtres en réponse. Un filtre passe-bas, par exemple, qui est très intéressant, que j'avais vu. Voilà. Là, vous avez un filtre passe-bas en réponse avec une ligne coaxiale. Donc, c'est assez bluffant comme site. Voilà, et donc on peut faire autant que vous voulez. C'est très facile après quand vous avez fait un schéma. Vous le sauvegardez, enregistrez sous, vous copiez ce lien-là et vous le rechargez de la même manière. Ça marche tout seul. Voilà, je vais vous montrer le montage que j'avais fait moi-même. Ok, hop. Hein, le montage, il est là. Il est où mes documents? Montage, le voilà. Donc ça, c'est mon petit montage que j'avais fait pour préparer la présentation. Et ça fonctionne très bien. Voilà, bon, c'est la même... C'est le même système, hein, puisque j'ai rien inventé, mais il y a plein de trucs intéressants. Voilà, je vous laisse vous amuser avec ce joli logiciel. Je reviens sur le PDF. Il y a plein de trucs à découvrir là-dessus. Ici, c'est toutes les copies d'écran de ce que j'ai gardé. Maintenant, vous pouvez vous amuser. Je vous ai mis ici mon montage avec le lien qui fonctionne, que j'ai testé. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.